Dans cette release de CPU, un très joli dessin, un support lisse, un autocollant, et on la poste un coup sec. Ah, comme ça. Nous interviewons Julien Dubedou, créateur de la collection de barrages Cyberspace Building Crew. L'équipe aujourd'hui Panda Rouge et Dascritch. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Hein ? Allez hop, c'est parti. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Julien Dubedou.
Salut.
Que je remercie d'être présent par satellite. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui es en train de préparer la Coupe du Monde de Babal en collectionnant les pochettes Panini. Il y a un temps, parce que beaucoup de gens me le demandaient, j'avais expliqué pourquoi ceux qui travaillent dans l'informatique collent des stickers sur leur portable, une stickophilie très particulière. Dans mon milieu professionnel, un logo ajouté au dos d'une bécane a une signification bien plus importante que la tête de mort, le logo de l'OM ou une marque d'autoradio collée à l'arrière d'une bagnole.
Oh la loose, il nous ressort un vieux billet de son blog.
Bah oui, désolé. Des fois ça m'arrive. Cette symbolique du sticker, je ne l'ai comprise que trop tardivement. Il faut dire que je n'ai eu que des PC de bureau jusqu'au moment où mon activité de freelance m'a forcément obligé à investir dans un ordinateur portable. Pour moi, un PC devait rester le plus immaculé. Pas forcément par culte de l'objet, mais surtout à cause de la garantie 24 mois du laptop. Il faut dire que dans la décennie 2000, je fus souvent témoin de garanties refusées pour cause de logo Intel Inside ou Windows XP Pro recouverts ou détériorés. J'étais néanmoins admiratif de ceux qui collent un magnifique décor sur leur dos de leur Macintosh, jouant avec la pomme iconique. Pas uniquement par habileté du hack graphique, mais parce qu'ils risquent leur peau si jamais leurs pas croisaient la sainte acquisition de l'église de Jobs. À cette époque, je crus qu'il était plus professionnel pour les clients d'avoir un objet vierge plutôt qu'y afficher quoi que ce soit. Sauf que j'avais oublié que mes clients étaient principalement des agences web. Eux, un sticker PHP leur aurait parlé. En 2010, j'ai été invité par Mozilla Europe à venir m'exprimer à Paris dans ce qui deviendra le NUMA avec un panel de développeurs. Pas avec n'importe qui, des gens dont j'adulais le travail, aussi bien des développeurs de navigateurs, Tristan Ito, Paul Rouget, Anthony Rico, coucou à eux, que Stéphane Deschamps, les créateurs de Sublime Vidéo, tous avaient bariolé leurs ordinateurs portables de stickers. À l'époque, mon PC portable était un Asus EEE701 immaculé, rikiki, 7 pouces de diagonale. Je n'avais donc pas de support à présenter, sinon au feutre et au tableau blanc. À ma première présence à une conférence pro, à savoir Sudweb, en 2012, on nous avait donné un stock conséquent de stickers. J'ai eu moins de scrupules à déflorer la carcasse de mon portable tout neuf, car j'avais compris. Ces autocollants qu'on met sur nos PC ne sont pas de la personnalisation d'engins ou du modding, mais nos lignes de CV, nos compétences, nos validations de capacités, nos batailles livrées, nos victoires gagnées, nos accomplissements. Comme les récompenses dans les jeux vidéo, comme les trophées sportifs, comme les badges dans le scoutisme, comme les médailles chez les militaires. Et si j'ai déjà des badges de développeurs HTML5 sur mon blog, ils ont l'inconvénient de rester cantonnés au virtuel et de ne pas avoir de présence physique. En collage de stickers sur PC, les règles ne sont pas dites, mais elles sont évidentes. On ne va pas décorer un matériel qui ne vous appartienne pas. Si votre ordinateur portable vous est fourni par votre employeur, il vaut mieux demander l'autorisation avant, ce qui donne une ouverture supplémentaire de dialogue et de reconnaissance de vos compétences. Votre hiérarchie doit comprendre que vous n'appliquez pas une décoration fantasy, mais que vous affichez bien vos compétences, voire que vous portez haut les couleurs de votre entreprise. On ne va pas mettre le sticker d'une conférence que si on y est effectivement allé. Le pire étant de vouloir usurper, prétendre que l'on y était. Le jeu de dupes est très périlleux dans ce secteur de l'informatique. Un coup de lanyard de meet-up pourrait dévoiler en très peu de temps une supercherie et totalement vous décrédibiliser. Le retour de bâton peut alors faire très mal. On ne va pas mettre le sticker d'une technologie qu'on n'aime pas ou qu'on n'a jamais testée. Parce que justement, la vision d'un sticker sur Amazon Web Services, React, Basho ou Django va forcément faire ouvrir le dialogue sur ces technologies-là. Mettre un logo parce qu'il est joli alors qu'on n'y connaît rien n'est pas du tout productif ou positif. L'une des rares exceptions est l'Octocat, la mascotte très kawaii de GitHub. Argument de plus totalement imparable, assayant la supériorité technologique face à BitKeeper, Mercurial, SVN, tout comme la baleine de Docker créée par Laurel, que nous avions reçue dans cette émission. On ne va pas mettre un sticker s'il est cheap. Argument qui vaut aussi bien pour le design que pour les matières premières. Si le papier ne semble pas solide, il risque de ne pas tenir longtemps au rythme pluricotidien où l'on fourre, extirpe sa bécane de sa besace. Si l'encre ne tient pas, votre message s'effacera. S'il prend la poussière et se salit vite, il en laidira l'ensemble. Par contre, si vous éditez des stickers en vinyle épais et solide, vous aurez nettement plus de chances qu'ils soient largement apposés par votre public cible. On ne met jamais de stickers de clubs sportifs ou de partis politiques. Par contre, je vois fréquemment des thèmes comme l'accessibilité, la citoyenneté numérique, l'intégration, la tolérance ou l'écologie. Dans mon entourage, Framasoft, la Quadrature du Net, le Theta Lab, l'Electronic Frontier Foundation et l'April sont représentés avec plus ou moins de discrétion, signe certain d'un engagement militant et donc de valeur. On choisit très soigneusement. La place est limitée. On voit nettement plus des portables avec 13 pouces 3 de diagonale d'écran dans les conférences que des paquebots 17 pouces. Enfant du futur immédiat, les stickers ont une propriété particulière chez les artisans du numérique. Marquer ses compétences, montrer son domaine technique et ouvrir un dialogue. Si tu as un autocollant d'une association d'agilistes, on te demandera si tu es plutôt Scrum ou Kanban. Si tu as des couleurs issues de conférences hors de France, des questions peuvent venir sur tes voyages. Alors n'oublie pas d'échanger tes stickers avec tes copains, on ne sait jamais. Low Fidelity All Stars, featuring Pigeonhead, Battle Flag.
Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate this air to go down saga. Go under. My karma. Go around on my karma. We'll be right back.
écoutez Radio Éphémère. Pour parler de stickers, il fallait aussi parler design dans un cadre fun, créatif et ouvert. Nous recevons donc par satellite Julien Dubedoux, graphiste et directeur artistique, web designer parti de Toulouse jusqu'aux grandes agences parisiennes, créateur de la collection de badges Cyberspace Building Crew, actuellement en crowdfunding, et ex-chef de projet web en alternance pour le lancement du cigare électronique Clinton 3000. CPU, carré, petit, utile. Julien, comment es-tu venu au graphisme ?
Eh ben, c'est une vieille histoire. Je commence à faire du graphisme tout seul en autodidacte majoritairement avec Photoshop et tout au collège que m'avait filé un pote. Et j'ai commencé comme ça. Et ensuite, j'ai continué avec un BTS multimédia et puis j'en ai fait mon métier en suivant.
Multimédia, à l'époque, on parlait pas de web.
Si, quand même un peu au début, mais c'était le titre du BTS, c'était multimédia interaction.
D'accord. Et pourquoi web designer ?
Ben, parce que web designer, c'était un peu un territoire vierge. Enfin, j'ai pas commencé si tôt que ça. Le web était déjà installé, mais à l'époque, pour bidouiller des choses, les rendre accessibles au monde entier facilement, etc., c'était la manière la plus économique et la plus simple, plutôt que de passer par des imprimeurs et tout ça, de faire son petit site chez soi, et puis de diffuser tout ça.
Par le terme accessible, qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est-à-dire diffuser ou justement inclure le plus de public possible ?
Bah, les deux, diffuser mondialement depuis sa chambre et puis aussi toucher un public varié.
D'accord. Mais qu'est-ce que t'es allé faire à Paris ? C'est pour l'amour d'un club de foot qui gagne ?
Eh ben, à Paris, écoute, pour tout te dire, moi je suis parisien à la base, donc c'était pour retrouver mes racines, et puis c'était aussi, surtout parce que j'aime bien Toulouse, mais il n'y avait aucun travail, donc nécessité faisant loi, on a dû déménager à Paris.
D'accord, ça je le comprends, mais ça te manquait un petit peu la chocolatine.
Pas vraiment, si je veux être tout à fait honnête.
Quelle est la différence entre un graphiste et un directeur artistique ?
Alors, directeur artistique, comme je l'explique à chaque fois, c'est pas directeur dans le sens chef déjà, c'est directeur dans le sens qui donne une direction. Donc son rôle, c'est de trouver un ton, une direction à tous les éléments créatifs d'un projet. Un graphiste, c'est une des personnes qui peut travailler avec un directeur artistique. Et pour rendre possible cette vision, alors en général ça se confond, un directeur artistique peut être aussi graphiste, mais pas forcément. Donc un directeur artistique va travailler avec des graphistes qui vont faire des mises en page, va travailler avec des illustrateurs, des vidéastes, motion designers, etc. Et lui va se charger de respecter le sens créatif du projet durant toute la durée de celui-ci.
Et au bout d'un moment, en fait, dans ton CV, tu as été freelance, donc tu as été directeur artistique freelance. Quel en est l'avantage ? C'est le choisir de collaborer ou non avec un projet ou ne pas avoir à subir l'ambiance d'un open space de la mort ?
Alors, c'est beaucoup de choses différentes. Enfin, c'est deux façons d'aborder le travail. Moi, j'aimais bien être aussi au sein d'une équipe. En freelance, ça offre d'autres avantages, notamment de pouvoir travailler chez soi, de pouvoir plus choisir ses projets. Et aussi de faire plus des choses plus variées, parce que l'industrialisation du web fait qu'on est de plus en plus spécialisé. Et quand on est freelance, on peut faire prendre des choses plus larges. Mais à l'inverse, on travaille sur des projets plus petits. Donc d'un côté, c'est intéressant parce que j'aide des entreprises à démarrer, etc. Donc c'est très intéressant. D'un autre côté, on peut toucher des projets beaucoup moins gros et beaucoup moins importants. Donc dans cet aspect-là, c'est un peu plus limitatif, mais être freelance, ça veut dire aussi qu'on peut travailler avec des agences, donc finalement, je m'y retrouve.
Ça, je comprends. Juste une question, parce que tu erres souvent sur les réseaux sociaux avec le pseudo Marie-Julien. Donc, vous êtes deux derrière, théoriquement. Vous faites comment ? Il y a parité sur les tweets ?
Alors non, il n'y a pas du tout parité sur les tweets, c'est globalement moi qui les écris, mais Marie valide tout quand même, donc elle cautionne à 100% ce qui est écrit, donc elle a sa part de responsabilité aussi.
D'accord, à 100%, dommage, on aurait bien aimé savoir ce qui ne passe pas. J'ai expliqué dans mon introduction l'usage des stickers dans le milieu informatique. Toi Julien, qu'est-ce qu'il y a comme stickers sur ton laptop ?
Aucun. Moi, je suis team pas de stickers sur les laptops parce que voilà, c'est un peu pour se démarquer. Je travaille dans un environnement où tout le monde a des stickers sur ses laptops, donc la meilleure façon de se démarquer, c'est de pas en mettre.
Et du coup, pourquoi créer une campagne de crowdfunding autour de stickers?
Alors, c'est surtout des écussons au départ,
Ouais.
mais sachant que mes congénères sont friands de stickers, ce serait dommage de se fermer un aussi gros marché. Donc, vu que c'est les mêmes codes, je les ai déclinés en stickers.
D'accord. Et ben justement, parlons un petit peu des stickers.
Le papier collant existe depuis le début du XXe siècle. Eh oui! Vous n'avez pas oublié le tue-mouche, cet accessoire d'éco-fifties mettant avantageusement en valeur le lustre de votre salle à manger. Mais l'autocollant tel que nous le connaissons est apparu fin des années 1960, suite à des avancées dans le monde des cols, une avancée qui n'est pas forcément liée à la conquête spatiale. Le premier usage du sticker sera la publicité, commerciale, politique ou militante. Publicité qui sera très vite envahissante, et que différentes lois tenteront de prohiber de la voie publique, notamment la loi sur les supports publicitaires en 1979, qui sera scrupuleusement ignorée par les colleurs de stickers. On trouve aussi des autocollants servant à décorer une vitrine d'un magasin, des véhicules ou un mur d'appartement. Des pièces aux dimensions imposantes et qui sont en général des tirages limités, voire uniques. Le mode d'emploi du sticker est simple. Nettoyez la surface où vous souhaitez la poser, décollez le papier de protection de la face collante, la posez sûrement en une fois contre la surface support, le côté collant, marouflez comme une Valérie D'Amido qui vient d'entendre une blague grossophobe sur Europe 1. Et on avait dit pas de blagues sur les grosses radios qui ont la même audience que nous. Pour retirer un sticker, le mieux est de se tourner vers les sites de bricolage, qui auront des conseils différents en fonction du type de stickers. Et oui. Là encore, il vaut mieux connaître son ennemi plutôt que le déchirer. Car il existe des colles plus ou moins fortes, et le médium graphique a aussi un rôle, en fonction que le papier soit cheap et perméable, ou un papier pelliculé d'une couche vinyle. De même, les faibles quantités, genre moins de 100 exemplaires, seront souvent produites sur des imprimantes, et donc auront un dessin bien moins solide dans le temps que les solutions d'imprimeurs professionnels comme la sérigraphie. Le sticker n'a qu'un inconvénient. Exposé aux éléments, il finit par pâlir. D'ailleurs, si vous trouvez un pigment rouge intense et stable face aux ultraviolets, un marché à 1 milliard de dollars par an s'ouvre à vous. Et si vous souhaitez faire vos propres stickers chez vous, il existe du papier autocollant pour imprimante, mais attention de bien choisir le papier en fonction de votre imprimante. Laser ou agé d'encre, le mauvais choix peut vous mener au démontage de l'imprimante. Et le nettoyage est plus compliqué qu'après un bourrage papier. Il existe aussi des plotteurs de découpe, des machines à commande numérique pour découper des feuilles autocollantes colorées, pilotables avec un logiciel de dessin vectoriel. Comptez 200 € pour une entrée de gamme plus les rouleaux de vinyle autocollant. Pour avoir plusieurs couleurs sur votre motif, vous pouvez superposer des formes de couleurs différentes pour un résultat au look professionnel et très résistant. Pour cela, Eugène Laune de notre partenaire Combustible peut vous expliquer la manipulation de transferts intermédiaires. C'est qui Eugène Laune?
Vaut mieux pas que tu saches.
A noter et pour terminer que le Stickers a son propre festival, le FIST, Festival International du Stickers de Toulouse, dont la première et à ce jour unique édition a eu lieu en mars 2017. Festival dont d'ailleurs Radio FMR était partenaire, mais c'est pas une raison pour foutre plein d'autocollants dégueuses dans le studio, bordel!
Eugène!
Dans l'eau du lavabo, la maladie mambo, la maladie. sécher si l'on veut qu'il soit beau. Et une panthère noire sur la lunette arrière et un cheval au galop sur la joue du scooter. Chaud le vent, chaud, chaud, c'est le mambo, mambo, mambo. Tous les dingos, les oraux, les bambis, les nickels et Pluto. Mambo, les ronds-plos-plos, des pin-up en maillot.
Richard Gottener, le mambo du Decalco. Extrait de l'album Chant Zouzou, sorti en 1982. Et on vous renvoie sur le clip qui était très wouh, coloré. Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes donc avec Julien Dubedou, qui est directeur artistique et créateur de la collection Cyberspace Building Crew. Julien, ton idée autour de la collection de badges Cyberspace Building Crew est venue pour illustrer les slides d'une des conférences à Paris Web 2017 sur l'accessibilité et le design. Bon, une fois de plus, la conférence que tu as faite est hilarante et instructive. D'ailleurs, je recommande franchement les audi spectateurs à aller la regarder et l'écouter. Il vaut mieux d'ailleurs la voir, pour le coup. Tu l'as conclu par cette phrase, un message de paix avec une mission commune pour un Internet meilleur.
Exactement.
C'était pas gagné d'avance ?
Bah non, le but de la conférence était justement d'expliquer que accessibilité et design peuvent travailler ensemble. Et il y a encore certaines dissensions entre plusieurs métiers du web, tout ça. Alors évidemment, ça conclut toujours par il faut se parler et tout se passe bien. Mais là, voilà, c'était pour enfoncer le clou là-dessus.
Peux-tu nous raconter pourquoi vous avez fait ce choix graphique d'illustration ?
Alors, c'est simple, on partait d'un antagonisme un peu apparent entre les experts accessibilité et les designers. Et c'est moi qui me suis chargé des slides, vu que c'était moi le designer du groupe. Et donc, j'ai cherché des thèmes, un fil rouge, des métaphores qui pouvaient correspondre à notre sujet. Et donc, j'ai pensé à la course à l'espace, avec la course effrénée entre les États-Unis et l'URSS pour la course à la Lune et l'espace en général. Et qui ont fini par collaborer avec ISS, avec les rencontres Apollo-Soyuz, etc. Et donc, je me suis dit que c'était une belle métaphore pour illustrer ça. Et en plus, comme c'était très graphique, je me suis dit que c'était l'occasion que ça ferait joli sur les slides. Et de fil en aiguille, donc, j'ai enchaîné en disant que ce serait marrant d'avoir un écusson pour le designer, un écusson pour l'accessibilité, qui représentait ces deux factions de l'espace, quoi.
Après avoir fait ta conférence, il y en a qui sont venus te voir vis-à-vis de ces badges ?
Bah, c'est surtout des tweets où ils disaient « Ah, c'est marrant, les badges, etc. » Et donc moi, j'ai rebondi en disant « Est-ce que ça vous dirait que j'en fasse des stickers ou des vrais écussons ?» Et puis j'ai eu des réponses positives. Donc je me suis dit qu'un jour, ce serait marrant de faire quoi.
D'accord. Sur le design, ces dessins que tu as fait pour cette conférence sont bien plus complexes qu'un logo d'entreprise ou de logiciel. Bon, on ne va pas parler de l'art de créer un logo pour ces cas classiques, mais est-ce que finalement c'était libérateur ou est-ce que c'était se mettre plus de contraintes sur cette collection que tu as créée ?
Non, c'était intéressant. Moi, j'aime bien faire de l'identité et du logo aussi, mais c'est des exercices un peu différents, bien que ça se rejoigne. L'idée, c'était vraiment de synthétiser un métier en reprenant tous les codes des écussons existants, des écussons de mission. Donc, on trouve un peu certains poncifs comme les étoiles, les flux, un peu les fumées, etc. Les orbites, etc. Et donc, voilà, l'idée, c'était de reprendre ça et de mêler web et espace en faisant un peu un truc humoristique par badge. Voilà. Donc c'était intéressant, c'était un contraignant pas trop, mais intéressant de trouver des formes. C'est toujours intéressant de faire quelque chose à la manière de quelque chose d'existant. J'aime bien travailler comme ça.
Quand tu as commencé à en parler, moi ce qui m'avait impressionné, c'était le nombre de références et la grille de lecture. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être allé un petit peu overkill dans le nombre de références ?
Ah oui, pour chaque badge, bah non, chacun a son truc. Ce qui est intéressant, c'est que les gens les voient ou pas, j'essaie que ce soit pas trop évident. Comme ça, l'écusson en lui-même est joli, figurativement parlant. Mais en plus, il y a des seconds niveaux de lecture avec des détails que les gens le sachent ou pas, c'est pas très grave, et ils ont chacun une signification. Le tout, c'est qu'il y a plusieurs lectures. D'un côté, bon, déjà, l'écusson peut être joli. Ensuite, il y a le métier qui est illustré là-dedans. Et ensuite, au sein du métier, il y a encore un niveau de lecture avec des détails propres au métier que peut-être les autres métiers ne connaîtront pas, mais que ceux qui prennent le badge sauront exactement sa signification.
Actuellement, je crois qu'il y a une dizaine de dessins, c'est ça ?
C'est ça, il y en a 11 pour le moment.
Je te laisse nous faire visiter un petit peu la collection. On va commencer par le Cyberspace Building Crew Program Patch. Alors, il s'adresse à qui, en fait, celui-là ?
Alors, celui-ci, c'est l'écusson de mission du programme spatial, on va dire. Il y a toujours un écusson, par exemple, le programme Apollo a son propre écusson, et après chaque mission Apollo à son écusson aussi. Donc le Cyberspace Building Crew, c'est la bannière, c'est le programme de ceux qui construisent le web, de ceux qui font le web. Donc en gros, c'est celui que tous ceux qui travaillent dans le web sont censés avoir.
D'accord. Est-ce que lui-même, il y a des références particulières à l'intérieur qui sont à décoder ?
Alors, celui-ci, c'est surtout le flux avec un arc-en-ciel donc, qui rejoint une étoile. Et donc, ça symbolise tous les métiers qui convergent vers un but commun pour créer Internet.
D'accord. Donc là, c'est chaque métier, en fait, est plus ou moins symbolisé par une couleur.
Voilà, c'est ça.
Le Special Spacing Unit, en fait, est à destination de qui ?
Alors ça c'est pour les designers, il faut savoir que les textes c'était une longue histoire parce qu'ils ont chacun eu plusieurs textes, et y compris le Cyberspace Building Crew, au départ c'était The Internet is the Mission, mais finalement j'ai opté pour faire comme une mission, donc le Special Spacing Unit, c'était au départ dans la conférence, il s'appelait Shiny and Chrome, donc c'était pour être brillant. Et là, c'est surtout pour jouer sur le fait que les designers aiment bien espacer les choses avec l'importance de l'espace négatif, le calage, etc. Et comme en plus il y avait espace dedans, j'ai essayé de jouer au maximum avec ça dans le texte de chaque badge. Donc voilà, ça collait bien que ce soit Special Spacing Unit.
Espace au masculin ou au féminin pour le coup ?
Alors moi je dis au masculin, sauf quand je dis une espace fine, mais après je trouve que c'est un peu snob de le dire toujours au féminin, enfin je sais que le vrai c'est au féminin, mais bon voilà.
D'accord, non, on ne va pas reparler de l'éternel débat un ou une manga derrière. From Tape to Space, alors là déjà il y a un jeu de mots, à qui est-il destiné ?
Alors ça c'est pour les développeurs, donc From Tape to Space. Donc c'est pour parler de l'indentation du code entre les deux écoles, de ceux qui indentent avec une tabulation et de ceux qui indentent avec des espaces. Donc je sais que ce débat fait rage. Moi en tant que designer, ça me paraît une hérésie de tabuler avec des espaces, vu qu'une tabulation c'est un caractère qui est fait exprès pour décaler. Mais apparemment c'est ce qui a l'air de faire consensus, donc voilà, j'ai joué là-dessus sur ce patch.
D'accord. Toi aussi, ça te semble complètement délirant de faire 8 fois la touche espace au lieu de faire une fois table, quoi.
Voilà.
Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est même tu as réussi à caler un point-virgule et des accolades dedans. Là, franchement, j'ai été assez estomaqué de la qualité graphique. Donc, il y a vraiment quand même derrière une vraie symbolique. C'est-à-dire, c'est vraiment une connaissance du métier derrière.
Ouais, bah, c'est un qui plaît beaucoup. Après, est-ce que c'est parce que j'ai plein de publics développeurs ou est-ce que c'est parce qu'il est particulièrement réussi, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il plaît beaucoup celui-là.
Badge suivant, Mission Control. Celui-ci, tu as dit qu'il est à destination de l'organisation et des product owners. Donc ça, déjà quand tu parles de product owner, déjà on va un petit peu vers le côté agiliste, mais on a besoin ou non d'être agiliste pour le comprendre ?
Non, pas du tout. C'est plutôt chef de projet, chef de produit, tout ce qui est organisation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc 11 patchs, mais au départ, je vais pas tous les faire en écusson parce que ça demanderait de faire plein de versions et le prix à l'unité m'empêche de faire ça. Mmh. Et donc, j'ai recentré sur ce dont on parle là, pour les grands métiers. Donc, il y avait designer, il y avait développeur. Et là, c'est quand même une place à l'organisation pour tout chef de projet, product owner, etc. Et donc, ça regroupe tout ça. Et celui-ci symbolise les allers-retours avec le client, l'organisation, la communication, avec des pointillés qui vont entre les planètes comme ça et qui relient tout ça.
Badge suivant, Prototype Testing Team. Donc là, c'est l'épreuve du feu un petit peu.
Voilà, Prototype Testing Team, donc ça c'est plutôt pour les designers UX. Donc celui-là, il représente une arborescence et puis des post-it qui font penser, en fait, qui sont maquillés dans comme si c'était un satellite avec ses propulseurs. Donc on ne le voit pas forcément au premier abord. Et voilà, j'ai orienté Prototype Testing Team parce qu'ils font plein de protos, ils les testent, ils font des tests utilisateurs. Donc ça devrait leur parler.
L'étape suivante, c'est la mise en ligne. System Deployment. Là, on est un petit peu, je vais dire... du côté du Capcom
Alors ça c'est plutôt donc ça c'est tout ce qui est pour les DevOps, sysadmin, SRE, etc. Voilà. Alors il faut savoir que là il s'appelle System Deployment, mais je crois que j'ai encore changé. Je crois que maintenant il s'appelle Infrastructure. Comment il s'appelle maintenant? Je sais plus. Donc il s'appelle Infrastructure Propulsion Lab. Voilà.
D'accord, parce qu'on va peut-être rappeler qu'effectivement on enregistre avant le lancement officiel du crowdfunding. Donc
voilà.
Alors attends. Ouais, c'est système déploiement, oui, maintenant.
D'accord.
Ah non, tu l'as pas changé. Tu l'as pas changé, non.
Non, je l'ai pas changé encore.
Pour toi, tu estimes qu'il faut quand même faire une séparation entre les développeurs et les DevOps et sysadmin? Ça ne va pas ensemble?
Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, on en a quatre qui sont les quatre principaux. Et si on arrive à en avoir des plus spécifiques, chaque métier ayant sa spécificité, il y aura des patchs pour tout le monde. Et c'est quand même différent, fondamentalement, quelqu'un qui déploie des infrastructures et un développeur web, par exemple. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a celui-ci qui fait penser à un terminal avec une ligne de commande et avec une forme un peu carrée, donc qui rappelle un écran de terminal.
Et en même temps, c'est assez amusant parce que tu as des longueurs d'onde, ce genre de choses, quoi.
Voilà, parce que ça, c'était pour être tout ce qui était monitoring, suivi. Enfin, voilà, on a les lignes de commande et un peu le monitoring. Et celui-là, c'est un de mes préférés graphiquement. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à le sortir. Puisqu'on va essayer de débloquer peu à peu les patchs. Et si on arrive à débloquer celui-là pour le faire en réel, ça serait vraiment cool.
Badge suivant, donc il y a système intégration, donc là on comprend bien que c'est ceux qui sont dans le code HTML pour y mettre dedans, pour y brancher le JavaScript et la CSS et tout le reste.
C'est ça, voilà, donc ça c'est Front Development, c'est ceux qui font du code CSS HTML majoritairement, même si après il y a aussi Node.js, React, etc. Mais voilà, c'est tout ce corps de métier là en front, et donc celui-là il représente des balises et les commentaires CSS avec la petite étoile et le slash.
Je l'avais pas vu l'étoile comme ça, effectivement. Ce qui m'a surpris un petit peu, c'est qu'il y a le point d'exclamation important. À ce qui paraît, il faut l'éviter.
Oui, il faut l'éviter. Ben, c'est pareil, c'est du texte. Je ne sais pas si je vais le conserver. Déjà, il a changé de couleur entre ce que tu vois là et ce qui va sortir. Il y a encore des modifications à faire, surtout que ceux-là, ils ne vont pas être tout de suite disponibles. Donc, c'est un des seuls sur lequel le texte, je n'ai pas encore trouvé le truc idéal. Au début, tous avaient un peu une blague dans leur nom. Et après, je me suis recentré sur plutôt un jeu de mots avec l'espace. Et celui-là, je n'ai pas encore trouvé, je t'avoue. Donc, j'ai laissé la blague qu'il y avait au départ avec le important.
C'est toujours l'intégrateur qui sue sang et eau parce qu'il y a un changement de texte ou de couleur ou des trucs comme ça, mais c'est comme si CSS, voilà. Les variables CSS n'étaient pas encore sorties pour eux. Malheureusement. On descend un petit peu, on en est à Human Division. Alors, pourquoi Human Division? C'est une référence
voilà,
à...
celui-ci, c'est... Celui-là, c'est l'historique, puisqu'il était avec celui du designer, et celui-là, c'est celui de l'accessibilité, qui était rond au départ, d'ailleurs, dans la conférence, et j'ai changé de forme pour varier un peu. Et donc, Human Division, bah, c'est dans toute mission spatiale habitée, il y a forcément tout un département, voire même plusieurs, qui s'occupent de la santé des astronautes, de leur bien-être, etc. Et donc, je me suis dit que ça allait être celui de l'accessibilité qui va s'occuper du fait que les êtres humains en général soient, arrivent à bien survivre là-dedans, quels qu'ils soient, malgré tous les handicaps, etc., que personne ne soit laissé en arrière, ne soit laissé pour compte. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est un des seuls qui, sur lequel il reste la devise aussi, au départ, Nobody's Left Behind. Donc, c'est pour dire que voilà, ils vont s'occuper des gens et leur faire vivre au mieux la mission et que c'est un rôle important.
Avec un petit code en braille au milieu.
C'est ça, un petit code en braille qui dit A11Y, donc l'abréviation de Accessibility.
Badge suivant, alors ceux-là, en général, ils sont pas trop aimés, mais c'est Finance and Budget. Pourtant, ils sont franchement importants. Les commerciaux, voilà. Et les financiers, quoi.
Voilà, on les aime pas toujours, mais c'est pas une raison, ils font totalement partie d'un projet web, et donc ils ont aussi leur badge avec des tons dorés pour une planète et un vaisseau qui va comme vers cette planète dorée, et avec la devise donc follow the money pour dire suivez l'argent. Et voilà.
D'accord. Et le tout dernier badge qui est celui du chef, du boss, Chief Executive Officer.
Voilà. Alors celui du CEO, dont j'aime beaucoup le graphisme et la forme, qui
ouais,
est un
parce
peu designé.
Il est très années 60, hein. Il est magnifique.
Ouais, il est un peu avec des électrons, parce que c'est un peu autour du CEO que tout le monde gravite. Et donc j'ai fait avec un peu une forme triangulaire arrondie qui était un peu galère à designer. Mais voilà, donc c'est aussi ça compte aussi dans le projet, donc je l'ai rajouté. Et puis c'est aussi strictement stratégique, puisque si je vends un pack avec tous les badges pour que les agences l'achètent, il faut qu'il y ait celui du CEO, sinon il n'aura jamais le budget pour acheter ce pack.
Pas mal, effectivement. Ça veut dire que tu vises aussi les entreprises quand même avec ce projet.
Ah oui, bah, idéalement, si on arrive à tous les sortir en badge et puis qu'il y a des agences qui veulent les prendre pour faire un groupe de stickers ou quoi, moi, mon but, c'est que tous ceux qui travaillent dans le web arborent ces couleurs.
Donc, jusqu'ici, il y a 10 badges. Et est-ce que tu penses qu'il y en aura d'autres qui vont aller, qui vont les rejoindre dans l'équipe?
Alors, comme l'ont vu ceux qui sont abonnés à la newsletter du projet, qui ont vu en avant-première, il y a d'autres patchs qui arrivent, d'autres écussons. Donc notamment un sur la qualité web qui est déjà designé. Celui-là, c'est sûr qu'il va arriver et il sera même offert au plus rapide dans le crowdfunding, en early bird. Et ensuite, il y en a possiblement d'autres qui arrivent parce que j'ai des contacts avec d'autres personnes qui veulent voir apparaître leur métier dans ce crew et donc qui veulent bien m'aider à financer des nouveaux écussons. Donc prochainement, il y en aura sûrement d'autres aussi.
Donc ça veut dire qu'il y a une vraie fierté, qu'il y a un vrai intérêt quand même vis-à-vis de ton projet, c'est pas qu'une vanité.
Bah pour le moment, en tout cas, c'est un projet sympathique, ça a l'air de plaire aux gens. On verra, la campagne Kickstarter nous dira si c'était juste passager ou si les gens aiment vraiment.
On fait un break. Vous écoutez Radio FMR. Won't stop me. The Rakes, On a Mission. Ce serait l'album 10 New Messages, sorti en 2007.
Eyes look straight ahead, shatsu contain with lockjaw. What's raging through my brain? Synapses are being smashed apart like bridges destroyed in a bombing campaign.
One crosses me on the floor, I swear.
Le studio d'animation japonais Production Ige préparait en 2001 la première série télé Standalone Complex, adaptation du manga de Masamune Shirow, Ghost in the Shell. Si le rieur personnage maléfique de l'histoire était déjà écrit, il lui manquait un logo qui a une importance scénaristique. Ce logo sera dessiné par Paul Nicholson, qui a déjà créé le logo d'Aphex Twin pour son pote de fac Richard D. James, et de nombreuses affiches et t-shirts de la scène électronique londonienne. En 2009, à Japan Expo, j'ai rencontré Paul Nicholson alias Terratag. Je lui ai notamment demandé par quel hasard un designer londonien s'est retrouvé à créer le graphisme d'une série japonaise emblématique.
Well, around about 1998,
en 1998, j'ai été approché par un label japonais de musique techno qui souhaitait utiliser mon travail pour les sorties au Royaume-Uni. Ils voulaient importer leur musique japonaise sur les dance floors de Londres et importer au Japon les technos londoniennes. Alors j'ai pondu quelques designs pour eux et j'ai filé au gars qui était spécialement venu à Londres un stock de stickers que j'ai créé. Quand il est revenu au Japon, il en avait collé quelques-uns sur son PC portable. Ce gars, par la suite, fut dans l'équipe d'écriture de la série Standalone Complex. Lors des réunions préparatoires, ce gars discutait avec le réalisateur Kenji Kaiyama. Kenji a vu ses stickers et lui a demandé où c'est qu'il les a eus. Donc, ce gars que je connais, Dai Sato, lui a expliqué que c'est le travail d'un graphiste à Londres et lui a donné mon contact. Kenji m'a demandé de faire des propositions sur le logo du rieur. Ça lui a plu et donc ils l'ont utilisé. Ainsi naquit le logo du rieur. Un logo monochrome d'un gamin riant en casquette, avec sur le pourtour un extrait de L'Attrape-cœur, l'unique roman de Jérôme David Salinger. L'histoire de ce livre, d'ailleurs, et de sa censure sont passionnants, mais nous ne voulons rien spoiler. Dans la tradition de l'émission, vous renvoie sur le site cpu.pm pour en savoir plus. Paul Nicholson continua sa collaboration avec Production Ige, notamment en créant pour la seconde saison le logo des 11 individuels, un dessin subtil, qui joue sur la graphie japonaise, mais là aussi, tenter de vous le décrire pourrait vous spoiler la série. Depuis, ce designer a multiplié les collaborations au Japon sous la marque Terratag jusqu'en 2012 et depuis sous la signature Number 3. Un autocollant aura fait la moitié du tour de la Terre pour aboutir à une collaboration improbable, mais culte. C'est CPU, l'émission Carré Petit Outil, où nous sommes avec Julien Dubaudou, qui est directeur artistique et qui a produit une collection de badges absolument magnifiques, Cyberspace Building Clou, actuellement en crowdfunding. Je vais me faire allumer par le CSA, y aller comme ça. Les badges ont relativement peu de texte. C'est étonnamment, ils sont compréhensibles par une personne du métier, mais à condition qu'elle maîtrise un minimum de termes anglophones. Est-ce que c'est voulu ?
Alors, clairement, je m'adresse à tout le marché, donc pas que français, donc aussi américain. Et donc, comme c'est aussi la langue dominante sur Internet, j'ai opté pour tout en anglais.
Ça veut dire que donc tu vises au-delà de la France, l'Amérique ? La Lune ?
Voilà, pourquoi pas. Hein.
Tu as déjà des retours, justement, à l'international ?
Non, mais j'ai pas beaucoup communiqué à l'international. J'ai juste internationalisé le site et la page Kickstarter. Et ensuite, je verrai si ça prend ou pas. C'est un marché un peu spécifique, donc on va bien voir ce que ça donne, mais je voulais pas me fermer cette possibilité.
D'accord. Est-ce que, pour toi, professionnellement, ce genre d'opération amène aussi une visibilité sur une œuvre de création purement personnelle? Ou est-ce que finalement tu t'en fous et tant que tu ne perds pas de tes sous?
Bah, c'est clairement la deuxième option. Après, ça amènera sûrement peut-être un peu de visibilité, mais il faut savoir que moi, je fais pas mal de side projects. Avant ça, c'était les voxels. Avant ça, c'était encore autre chose. Et que là, c'était les patchs. C'est devenu complètement hors de contrôle avec des gens qui voulaient le faire. Donc, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'essaye de le faire. Donc, après, j'ai fait le site. Après, j'ai fait la page Kickstarter. Après, j'ai passé beaucoup trop de temps, beaucoup plus de temps que prévu et beaucoup trop de temps en général. Mais bon, maintenant, c'est trop tard pour reculer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir la page et de produire ça, que les gens ont l'air de bien aimer sans y laisser des plumes, donc sans être de ma poche. Mais si on arrive à créer quelque chose, à lancer ça tous ensemble avec tous ceux qui sont intéressés, ça sera une bonne chose.
Est-ce que tu as regardé s'il existait déjà ce genre de projet pour fédérer, pour montrer un peu graphiquement chacun des métiers?
J'ai pas vraiment fait de recherche parce que, comme je disais, c'est un side project au départ que j'ai commencé comme ça et que j'ai continué. Donc, c'était pas vraiment dans une idée de faire la même chose ou différent que d'autres personnes. Je sais pas si ça existe ou pas. C'est possible sur Internet. En tout cas, j'ai rien vu passer comme ça, mais j'ai pas vraiment fait de recherche poussée.
Pourquoi as-tu décidé de les faire en badge tissé? Tu as un vieux veston à repriser, un bombers d'aviateur?
Non, mais j'ai songé à acheter un bombers d'aviateur une fois que j'avais fait ses écussons pour le coller dessus. Enfin, il finira quand même sur une de mes doudounes, au moins un. Mais l'histoire des écussons brodés, c'est que il y a toute une histoire derrière les écussons brodés avec toutes les missions. Enfin, ça raconte vraiment l'histoire spatiale. C'est écrit à travers les écussons. Et donc, c'est une forme d'expression que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très créatif sur un petit format. Et donc, voilà, j'aime beaucoup le style. Quand je suis allé à la, ils avaient toute une boutique avec tout des murs et des murs entiers avec tous les écussons de toutes les missions qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. Et vraiment, c'était très très intéressant. Donc voilà, j'aime bien cette forme. Ça peut rester sous forme de stickers, mais avoir le vrai produit bien brodé, c'était quand même quelque chose que je voulais essayer de faire.
Et comment tu l'as choisi en fait, ce prestataire? C'était Page Jaune. C'est nous fournissons l'ESA.
Alors voilà, le prestataire que j'ai choisi, alors au départ, je me suis dit qui fabrique des écussons de la NASA, donc j'ai regardé aux États-Unis qui faisait ça, et donc il y avait bien le prestataire des écussons de la NASA qui était ouvert aussi aux commandes extérieures. Donc j'ai commencé par les contacter, et ils ne m'ont jamais répondu, donc je me suis replié vers les solutions françaises, surtout que ça a entraîné des problèmes de commander aux États-Unis, notamment le paiement en dollars, alors que moi j'allais être payé en euros. Mais bon, je voulais quand même tester d'avoir le prestataire de la NASA. Et donc finalement, après avoir fait des recherches, comparé des devis, je suis tombé sur un prestataire qui faisait de la qualité, qui avait des clients un peu prestigieux et qui faisait aussi les écussons du CNES et qui a fait en l'occurrence les écussons de Thomas Pesquet pour l'émission de Thomas Pesquet dans l'ISS. Donc je me suis dit que ça a relié quand même avec le thème de l'espace et que c'était intéressant de passer par lui.
Et du coup, c'est un prestataire qui a quoi en général comme commande comme toi? C'est fantasy, c'est en rapport avec exclusivement le spatial ou des fois avec le militaire ou ce genre de choses?
Non, enfin c'est un prestataire généraliste qui fait et pour les grandes marques de haute couture ou de montres, de choses comme ça, et aussi tout ce qui est militaire, aviation, pompiers, enfin tout. Toutes les professions qui peuvent avoir un gros besoin d'écussons.
D'accord. Est-ce que du coup, tu as eu des contraintes spécifiques en SWAT? Comment on fait pour créer le fichier dont ils ont besoin pour travailler?
Alors, il y avait moins de contraintes que ce à quoi je m'attendais. En fait, il faut savoir que j'ai pas travaillé dans cette optique au début, puisque c'était même pas censé aller aussi loin. Donc moi, j'ai fait mon design et puis voilà au départ, puisque c'était pas censé se réaliser. Ensuite, en général, quand on fait un écusson, il y a pas vraiment de contraintes, à part qu'il faut que les textes ne soient pas trop petits. Mais à part ça, on fait ce qu'on veut. Ce qui fait la différence, c'est le prix. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de couleurs, ça va coûter très cher. Là, j'essaie de me limiter à 7 couleurs pour rester dans la grille de prix, la première grille de prix. Et donc voilà, surtout celui avec l'arc-en-ciel, j'ai dû éliminer une couleur. Au début, le contour avait une couleur différente, mais j'ai dû repasser à la même couleur pour économiser une couleur. Et les autres, ils ont moins de 7 couleurs. Donc a priori, ça ne posera pas de problème là-dessus. Il faudra que je surveille les tailles de typos et ça devrait aller.
Y a des contraintes particulières justement sur les couleurs, c'est lié à des Pantone, à des teintes qui sont spécifiques, ou en soit c'est vas-y, t'es sur le RGB Adobe.
Ah bah non, c'est forcément lié à la couleur du fil, donc ils ont des couleurs de bobine de fil, mais après ils ont accès à un catalogue immense, donc ils trouvent, on fournit le fichier et puis ensuite ils trouvent la couleur qui est le plus proche et on s'entend ensemble, ils font une proposition avec une couleur de fil et voilà, après moi je valide ou pas selon si ça me semble bien ou pas.
Tu as déjà eu un premier batch de test qui t'a été envoyé par le fabricant, si je me trompe?
Voilà, c'est ça, j'ai décidé d'avancer les sous pour faire une première commande. On pouvait commander un prototype unique, mais le prix du prototype unique était tel qu'il valait mieux faire une, payer un peu plus cher et faire une commande de plusieurs exemplaires. Comme ça, je peux à la fois en donner, à la fois les prendre en photo, à la fois voilà, commencer à faire des essais. Donc j'ai opté pour ça en espérant que la campagne fonctionne, ou en tout cas, si la campagne ne fonctionne pas, que je pourrais vendre cette première pré-série, on va dire.
D'accord. Et est-ce que tu espères au fond de toi que ça inspire des gens à s'intéresser au métier?
Que ça inspire à faire... ça leur donne la vocation de travailler pour le web?
Ouais.
Je sais pas si ça peut aller jusque-là, mais bon, si déjà ils trouvent que c'est des jolis écussons et qu'ils posent des questions dessus et sur les métiers, ça, c'est déjà pas mal.
On a déjà reçu plusieurs fois des projets en crowdfunding dans cette émission. Il y a eu des histoires qui étaient plus ou moins heureuses, notamment quand même celle de Laurel qui n'a pas été très joyeuse, etc. Est-ce que toi, tu penses que c'est un projet positif vis-à-vis du projet web, en fait, de la mission web en elle-même, ou est-ce que tu penses que c'est carrément utopique?
C'est-à-dire la portée du projet elle-même?
Oui.
Bah moi j'ai pas vraiment de visée derrière, hein. Comme je disais, j'ai fait mon side project, c'est arrivé comme ça. Ensuite, si chacun veut un patch rigolo et qu'on fasse tous partie d'un programme spatial imaginaire, enfin du programme du cyberespace imaginaire, ça sera vraiment cool. Mais après voilà, si ça rate, ça rate et c'est pas un drame.
Bon, bah Julien, en tout cas, on te souhaite le succès parce que graphiquement, c'est une belle histoire. Il y a énormément de choses à aller chercher graphiquement à l'œil pour ceux qui le regardent. En plus, ben justement, c'est ce que ça raconte vis-à-vis d'un certain style graphique d'une époque qui révolue, mais qui reste extrêmement chic. Moi en tout cas j'ai eu le coup de cœur, c'est pour ça que je suis pas du tout objectif aujourd'hui, mais en tout cas je te souhaite sincèrement une très belle réussite.
Merci.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Panda Rouge, Chief Sticking Officer, et d'Ascritch, Chief Rubbing Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, les extraits et sa documentation sont disponibles sur le site web cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. À l'exception des parties musicales, les chroniques et interviews sont disponibles en Creative Commons. Alors n'hésitez pas. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez présentement sur Radio FMR Analogique, il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et d'ailleurs Monique, j'ai cru comprendre que tu avais aimé la manière dont j'appelais ton émission. C'est vrai que le créneau horaire s'appelle les impromptus et ton émission sur le théâtre et la danse contemporaine, à chaque fois je l'appelle cultivé et c'est de bon cœur. Eugène, t'arrêtes de foutre des autocollants partout dans le studio, je vais me fâcher. Deux mots aussi à l'émission, t'inquiète, hein, du lundi soir.